Robert est ravi, c'était son rêve d'aller au Mont-Saint-Michel. Pas forcément au camping-car, mais elle voulait aller au Mont-Saint-Michel. Et puis après, évidemment, ça se passe pas comme prévu. Voilà, il y a des voisins, il y a des Allemands qui débarquent,
Les Hollandais.
il y a des Hollandais. Enfin bon, bref, ils sont pas peinards, quoi. Mais c'est une belle aventure où tout le monde rigole, surtout le public.
Alors, vous avez eu une expérience de camping?
Ah, du camping, oui. Du camping-car, pas forcément, mais du camping, oui. On a tous fait du camping. Mais en fait, c'est plus le camping-car, là, qu'on traite, que le camping. Parce que le camping-car, c'est vraiment une nouvelle forme. Justement, on se regroupe pas
Mais il y a
dans des camps.
l'environnement.
Voilà, mais on essaie d'être libre. Et justement, nous, on montre dans le spectacle que, bon, ouais, cette liberté, elle a des revers, quoi. Et c'est que ça se passe pas toujours comme prévu. Voilà, et là, ils ont visité donc le Mont-Saint-Michel. Ils voulaient être devant pour avoir le lever de soleil sur le Mont-Saint-Michel. Mais le lendemain, quand ils se réveillent, il y a déjà un autre camping-car qui s'est mis devant. Voilà.
Alors, quand il y a camping-car et camping-car aussi.
Ah bah oui, la star des camping-cars. Moi, je me suis beaucoup documenté pour écrire ce spectacle. Et il y a un monde entre les camping-cars. Hein. Ça va du camping-car qui ressemble à une caravane à une camping-car qui est une vraie maison. Ce n'est pas les mêmes gens qui les trucs. Il y a des puristes, il y a des moins puristes. Il y en a qui lookent leur camping-car. Il y en a qui accrochent à leur camping-car une remorque avec une voiture.
Et il y en a qui rentrent aussi la voiture.
Il y en a qui rentrent la voiture dans le camping-car. C'est insensé, mais c'est le hobby le plus pratiqué en France. Et en Europe, je pense. Non, c'est un vrai phénomène de société. On ne pouvait pas passer à côté de ça.
Alors, on retrouve le même public, c'est-à-dire en camping-car, les profs, les fonctionnaires, on retrouve tout le monde, toutes les catégories sociales.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Les commerçants.
En fait, c'est des gens qui rêvent de liberté. C'est pour ceux qui ne veulent pas faire du bateau parce qu'ils ont un mal de mer, ils font du camping-car, quoi.
C'est un peu ça, ouais.
Ok, donc, eh bien, bon courage et puis bonne route.
Ouais,
merci.
Et attention au pont.
Ah oui.
Documentez-vous.
Oui, oui. Faut faire gaffe au pont, ouais. Mais moins qu'avec les bateaux, parce que les mâts, ça passe encore moins bien.
Merci à vous.
20 fois.
Alors vas-y.
Plusieurs qui m'ont marqué, mais un qui est presque contemporain, c'est Kersauzon, le grand navigateur, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mémoire salée, qui est le compte-rendu d'une de ces courses insensées où ils ont tous risqué leur peau. Donc, il y a un truc philosophique, on peut dire, hein, vraiment bien. Puis après, bon, plein d'autres. Moi, j'ai eu ma grande période Henry Miller, avec tous les grands bouquins d'Henry Miller. Plus que la trilogie, je crois que j'ai tout lu dans tous les sens. Et puis après, tous les grands classiques. Mais dans les bouquins récents, ça. Et puis, voilà, je viens de découvrir un auteur suédois qui s'appelle Björn Larsson. Ça ne s'invente pas, hein, c'est vraiment un nom suédois. Qui est le roi du polar contemporain. C'est exceptionnel, je conseille à tout le monde.
Francis ?
Alors moi, il y avait John Irving avec son livre « L'œuvre de Dieu, la part du diable ». Ça, c'est un livre qui m'avait marqué.
Vous pouvez raconter un peu le bouquin ?
Oh oui, c'est très compliqué, c'est un énorme pavé. Et en fait, on rentre dans un univers, c'est l'univers d'un orphelinat dans le Maine, c'est-à-dire au-dessus, au nord des États-Unis, et tout le parcours de ce gamin qui essaie de se refaire justement dans cet orphelinat, de s'inventer une famille et de s'inventer un nouveau monde. C'est superbement écrit. Et puis il y a un auteur qui lui ressemble à la française, on va dire, et en plus il est toulousain, il s'appelle Dubois, et il avait fait Une vie française. Voilà, ça c'est des bouquins qui m'ont marqué. Après il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que là, quand on me pose à brûle pour point,
c'est
de là
ressort.
Une vie française, justement, c'est la vie d'un enfant qui grandit dans un univers de la middle class française, quoi, le français moyen. Et ça décrit toute une période de la France dans les années 60. C'est une période que j'ai vécue, les parents avec la dauphine qui partent en vacances, les premiers congés payés, etc. etc. Et voilà, c'est un livre sur les sensations, sur les sentiments, il y a un feeling, quoi, vraiment.
Un livre de saveur.
Voilà, un livre de saveur.
Merci. Tout de suite, c'est Dwight. Non, elle fait sa dernière.
Fini.
Oui. George Ayache, maintenant, avec qui nous allons évoquer Joe Kennedy, Le pouvoir et la malédiction. C'est le titre de son livre aux éditions Perrin. Alors, Joe Kennedy, alors le patriarche, mais aussi un personnage quand même à la fois sulfureux et controversé. C'est le moins qu'on puisse dire.
Exactement, sulfureux et controversé, donc un personnage de roman. C'est ce qu'il a été, sa vie a été ondoyante, diverse, Et malgré toutes ses facettes, il a été effectivement très, très, très critiqué, très controversé, parce que son parcours n'a pas été forcément linéaire.
Alors effectivement, il est quand même passé par, je dirais, toutes les catégories sociales possibles, banquier, mais aussi trafiquant d'alcool, producteur de cinéma et j'en passe. Et puis, bien sûr, quand même homme influent, ambassadeur aussi.
Ambassadeur, ce qui n'était pas le moindre des postes. Et puis après, bon, il est entré dans la politique au profit de son fils.
Alors justement, comment il envisageait la politique d'un côté et puis cette ambition familiale ?
Au départ, il faisait de la politique pour lui. Il voulait être le premier président irlandais des États-Unis. Et puis ça n'a pas marché parce que son passage comme ambassadeur a été très 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 controversé, très critiqué. Et donc il a été grillé sur le plan politique. Il a tout reporté sur son fils aîné. Malheureusement pour lui, son fils aîné est mort à la guerre, son avion étant ayant explosé en vol. Donc il a reporté tous ses espoirs, toutes ses ambitions sur son fils cadet, John, qui deviendra président.
Et puis donc, il y a évidemment ces succès on ne sait pas trop, parce qu'il sert aussi bien les mains de Churchill que les mains des mafieux.
Eh oui, parce qu'effectivement, une réussite, ça comporte aussi des phases sombres, et Dieu sait qu'il les a traversées allègrement, mais ça faisait partie de sa vie également.
Alors cette ambition, effectivement, d'avoir et de donner à la famille Kennedy un président des États-Unis est aussi, à contrario, entachée de drames.
Oui, entaché de drame parce que effectivement, il va voir deux de ses fils assassinés l'un après l'autre, et pour un père, c'est la chose la plus épouvantable qui puisse arriver.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Joe Kennedy, sinon qu'il a un prénom à la Dalton, mais
ça a été l'architecte de la famille, d'une famille exceptionnelle, d'une famille sur laquelle un mythe s'est créé et qui perdure jusqu'à l'heure actuelle. Hein. C'est un mythe flamboyant de réussite, de beauté, de classe, etc. C'est lui qui a été l'organisateur de tout ça. Après que son parcours individuel ait été entaché, c'est une certitude. Il n'en reste pas moins que cette réussite, c'est sa famille.
Alors aujourd'hui, il reste qui ? Il reste quoi du clan Kennedy ?
Il reste des souvenirs. Il reste des souvenirs. De temps en temps, on agite la perspective d'une relève qui serait prise par les nouvelles générations. Je n'y crois pas trop. Il se peut qu'un Kennedy devienne sénateur, effectivement, ou un candidat quelconque. Mais le mythe se réfugie dans le passé. On reste sur l'image de ses frères, mais les descendants ne sont pas du tout... C'est pas la même histoire, c'est une autre histoire.
Merci Georges Ayache. Donc mieux connaître le clan Kennedy donc à travers cette biographie de Joe Kennedy. Ça s'appelle Le pouvoir et la malédiction et c'est aux éditions Perrin. Merci à vous.
Merci à vous.
J'avais été avec...
Il y a eu un autre
roman, c'est un des premiers romans de Patrick Modiano qui s'appelle Ville la Triste. Ah oui. Et ce roman m'avait beaucoup impressionné, d'une part à travers l'histoire qu'il racontait et puis le style qu'il a adopté. À travers ce style, il y avait la recréation de toute une atmosphère d'époque. Et ça m'avait beaucoup impressionné dans ce style de Modiano. Et par la suite, j'ai lu les autres romans, qui se recoupent d'ailleurs pas mal, mais toujours avec cette même magie d'une atmosphère à créer. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que le fait de recréer une atmosphère, de recréer un contexte, d'essayer de s'immerger dans ce passé, c'est un peu la clé de l'historien.
Et puis, il faut dire que Modiano a une écriture très particulière, hyper, hyper précise. C'est réglé comme du papier à musique.
Hyper précise, des phrases courtes, pas d'emphase, pas d'enluminure ou d'arabesque. Non, il est assez sec dans sa manière de voir, mais c'est la magie. En 5 lignes, 10 lignes, on entre dans son univers. Et ça, c'est incomparable.
Allons-y. Raphaël Giordano avec un nouveau roman, Cupidon a des ailes en carton, aux éditions Plon. Alors, je ne résiste pas à redonner le titre des précédents romans de Raphaël Giordano, parce que j'adore les titres. Donc, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, et le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et cette fois-ci, c'est Cupidon qui décoche ses flèches, ou sa flèche, de l'amour. Mais c'est pas si évident que ça, l'amour à vivre. Pour Meredith.
pour Meredith, mais je pense pour un peu tout le monde. Non, c'est vraiment ce qui m'a donné l'idée d'appeler le roman Cupidon a des ailes en carton. C'est l'amour, cette chose fabuleuse, une des plus belles choses à vivre, évidemment, dans notre existence. Et pourquoi des ailes en carton ? Ben justement, parce qu'il y a Cupidon est plein de... nous tend pas mal de petits pièges, et l'amour n'est pas toujours un chemin de rose. Et ben c'est pour ça que j'ai imaginé... donc cette héroïne Meredith qui est une comédienne en devenir qui vous me dites si je
développe c'est bon,
Meredith comédienne en devenir, donc elle vit cette très belle histoire avec Antoine, mais depuis pas si longtemps que ça, depuis quelques mois, et lui est déjà installé, enfin un producteur d'émissions de radio, donc successful, là où elle est une graine de comique, mais elle ne s'est pas encore réalisée, elle n'a pas encore rencontré le succès. Et au moment où leur histoire est sur le point de devenir plus sérieuse, elle est rattrapée par ses doutes, par ses, ses peurs, par son petit complexe d'infériorité aussi. J'appelle ça le syndrome vilain petit canard, peut-être.
Justement, l'amour, son amour qui est fabuleux, qui est vraiment un grand, grand amour, c'est l'homme de sa vie.
Voilà,
c'est l'homme de sa vie. Mais alors, est-ce qu'elle fait un complexe par rapport à cet amour qu'elle se ressent peut-être, elle, plus grand encore que l'amour qu'il lui porte ? Ou est-ce que c'est cette notion de social et de place qu'elle gère mal ?
Alors, Antoine l'aime vraiment éperdument, donc il n'y a pas de déséquilibre à ce niveau-là, en tout cas sur leur amour réciproque.
C'est un complexe par rapport à la situation d'Antoine et par rapport à elle.
Mais, c'est-à-dire que elle ressent ce besoin de se réaliser pour se sentir fière, et elle a la conviction si elle ne le fait pas, ce serait un peu comme une petite, pas la gangrène du couple, mais je veux dire, quand au sein d'un couple, il y en a un des deux qui ne se sent pas très bien dans sa peau parce que il s'est pas accompli, ou il a, voilà. Surtout aujourd'hui, je dirais, tout ça n'était peut-être pas aussi vrai il y a encore 80 ans, 60 ans.
On ne vivait pas l'amour de la même manière, peut-être.
On vivait pas, on n'avait peut-être pas ces attentes, de même qu'aujourd'hui, je ne sais pas, les femmes, voilà, on a envie de se réaliser tant professionnellement, mais je pense qu'on a envie d'être ambitieux aussi pour ces histoires d'amour. On n'attend pas seulement de se marier et de passer toute la même vie. Je ne sais pas, on a envie d'être ambitieux en amour.
Alors,
aussi.
Quelquefois, dans une histoire d'amour, il y a la passion et autres, et puis au bout d'un moment, peut-être la passion s'émousse un peu et on se dit on fait un break. Et en fait, elle fait le break avant.
Oui, alors voilà, c'est ce que je trouvais amusant comme paradoxe de départ aussi, parce que c'est vrai que des fois on fait des pauses et on réfléchit à tout ça en cours de route. Bon, c'est là où c'est un conte, c'est une métaphore, mais l'idée, c'est que dans l'idéal, il faudrait pouvoir faire ce chemin-là avant